C'est 23.
Voici la commission Normando-Ferrandaise.
Alors, cher commissaire, bien sûr, le sujet ce matin, le budget fédéral de Mme Freeland qui a été présenté hier. Comment on le qualifie, ce budget? Réaliste, dépensier, extravagant, modéré? Nathalie?
Ben moi, je dirais prudent et modéré, oui. Christophe Freeland n'a rien de la dame Séraphin, là, aujourd'hui. D'ailleurs, les Canadiens ont dit au gouvernement de Justin Trudeau, là, ça va faire les dépenses, là, il faut modérer vos transports, puis c'est exactement le message qu'il a entendu. Et je dirais également, c'est un budget qui répond en partie aux grands défis auxquels notre société est confrontée, parce qu'il répond, entre autres, il affiche des préoccupations pour ce qui est de l'augmentation du coût de la vie. Il y a des mesures concrètes pour accéder à la propriété, entre autres, l'achat d'une première maison. On veut construire davantage de logements abordables, de logements sociaux. On a annoncé, c'était déjà dans l'air, mais là, on confirme, sans trop de détails, mais quand même, la volonté de permettre davantage de Canadiens qui sont moins nantis d'accéder aux soins dentaires. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est que pour un palier de gouvernement qui est perçu souvent comme loin des citoyens, ben le budget contient des mesures qui sont très, très proches des citoyens, qui répondent à des préoccupations très concrètes, très tangibles.
Bon, moi, je voudrais qualifier ce que tu viens d'appeler d'équilibré ou de réaliste.
Modeste, oui.
Bon, il y a 49 milliards de nouveaux revenus depuis la dernière évaluation budgétaire. Et de ces 49 milliards, on a choisi de n'en dépenser que 29 milliards. C'est pas qu'on n'est plus en déficit. C'est pas que tout va bien. C'est qu'il y a 49 milliards de nouveaux revenus. Or, ces nouveaux revenus, on doit se poser la question, est-ce qu'ils sont là pour rester? Est-ce que cette croissance-là, à quoi elle est liée? Alors, liée à plusieurs choses. D'abord, elle est liée à l'inflation. Parce que lorsqu'il y a de l'inflation, dans un premier temps, les revenus de l'État augmentent puisque la taxe de vente, la TPS rapporte beaucoup d'argent, les revenus des entreprises sont libellés en dollars qui sur lesquels il y a une inflation. Donc, il y a plus d'argent qui monte dans un premier temps, jusqu'à temps que les taux d'intérêt augmentent, puis là, les revenus de l'État vont être mis à mal. Ça, c'est pas sûr que ça va rester. L'autre élément, c'est l'augmentation des prix du pétrole qui a amené beaucoup d'argent dans les coffres de l'État. Alors, et là, il y a aussi l'économie, l'emploi qui est plus élevé qu'il n'a jamais été. Ça, c'est une valeur sûre. Ça, c'est quelque chose qui va rester.
Juste te donner le dernier chiffre de chômage, là, pour aller dans le sens que tu dis, c'est à peu près 4%.
C'est fou, hein? Oui. Mais, bon, donc on l'a pas dépensé au complet, le 49 milliards, on en dépense 29 milliards. Dans des programmes, et ça, c'est ça peut-être qu'il faut réaliser, là, c'est qu'ils sont là pour rester. Ce sont des programmes, des gros programmes qui vont attirer d'autres dépenses dans les années suivantes, sont récurrents. Là, évidemment, on a beaucoup parlé du programme de soins dentaires, mais c'est juste 1,7 milliard. Est-ce que vous avez remarqué que les affaires du Nord et services autochtones ont triplé entre 2018 et 2022? On est passé de 15 milliards à 45 milliards. Et là, c'est 30 milliards de dollars de plus, là. Et ça, c'est récurrent. Le 45 milliards, il va revenir à chaque année. Évidemment, le logement, 10 milliards, qui s'ajoute, ces programmes-là s'ajoutent au programme de l'an passé, qui est garderie, qui avait coûté 6 milliards, puis celui de l'an prochain, qui est assurance médicaments, on ne sait pas combien ça va coûter. Donc, le fédéral s'engage dans des dépenses lourdes qui vont augmenter progressivement. C'est le choix qu'il a fait.
En passant, soins dentaires, Luc, à terme, c'est 5,3 milliards de dépenses. Là, on veut déployer le programme sur plusieurs années. Mais on est béni des dieux, hein, parce que dans le budget, il est écrit qu'on a récupéré les emplois. On a récupéré 112% des emplois perdus durant la pandémie, alors que les États-Unis n'ont récupéré que 90% seulement des emplois. Alors, l'économie canadienne, avec un taux de chômage, le chiffre de 4%, Paul, c'est pour le Québec, là, ça vient de sortir. Chômage au Canada, 5,5%. On est béni des dieux. L'économie canadienne résiste. Et ça, c'est absolument incroyable. Il faut le souligner. L'autre chose, le gouvernement est moins dépensier, mais si ce n'était du conflit en Ukraine, peut-être qu'on aurait été tenté d'appuyer un peu plus sur l'accélérateur pour ce qui est des dépenses. Parce que le conflit en Ukraine est venu complètement à créer de l'insécurité sur le plan économique, est venu chambouler l'agenda du gouvernement. La preuve, c'est que les dépenses militaires ont augmenté. Luc, on en a parlé la semaine passée. Toi qui disais, faut attendre 2 ans. Bon, les dépenses militaires vont augmenter sans surprise, mais elles vont augmenter progressivement. L'autre chose, j'entendais le ministre Girard dire, ben là, les transferts en santé n'ont pas augmenté. J'aurais envie de dire ceci à M. Girard. Là, il faut aiguiser raffiner votre argumentaire, parce que si je suis du côté fédéral et j'entends le Québec dire, ça prend plus d'argent en santé, je dis, attendez un instant, vous avez financé one shot dans le cadre d'un paiement seulement de 3,2 milliards de dollars, c'est la mesure liée aux 500 $, là, au fameux crédit d'impôt. Le gouvernement a tellement de marge de manœuvre au Québec qu'il a réussi à, il va réussir à financer en 2021-22. Il va payer, là, vraiment, dans un seul paiement, cette mesure. L'autre chose, transfert en santé, oui, je comprends, mais en même temps, le gouvernement vient d'annoncer dans son dernier budget, le gouvernement du Québec, 8 milliards de nouveaux crédits pour la santé, dont 5 milliards pour le plan santé. Fait que je comprends que le Québec a besoin d'une marge de manœuvre additionnelle pour le secteur de la santé, mais tu peux pas dire ça, puis en même temps, démontrer que tu as des marges de manœuvre qui te permettent, de toute évidence, de rencontrer certaines de tes obligations.
Oui, puis Nathalie, j'aimerais en disant que aussi dans ce dossier-là, ce qu'on entend dans les couloirs, c'est que l'État fédéral considère que les provinces ne font pas bien avec les budgets et que c'était rapporté par la presse, là, comme quoi, notamment à cause des importants salaires donnés aux spécialistes et aux médecins, en disant, ben, quand tu compares les budgets canadiens avec les budgets de l'OCDE, tu te dis, on a assez d'argent sur la table. Le problème, c'est qu'il est mal dépensé. Alors, c'est amusant parce que là, le Ottawa ne joue pas son rôle de fédérateur, de fédération, il joue son rôle de boss. Et ça, on n'était pas habitué à ça. Là. Ça, c'est vraiment une décision de dire nous, on a de l'argent en masse. Là. Regarde, on a 49 milliards de plus que prévu. C'est énormément. En un an, 49. Mais on vous donnera pas ce que vous voulez parce qu'on trouve que vous le dépensez mal. Ça, c'est pas comme ça que la fédération est censée marcher. Hein. La fédération, c'est ça à dire, il y a des pouvoirs qui appartiennent soit à Ottawa, soit à Québec. Et lorsqu'un pouvoir appartient aux provinces, mais le fédéral doit pas se demander comment c'est géré, de voir quelle sorte de balai que tu utilises, toi, pour balayer le devant de l'hôpital. C'est pas supposé être comme ça. Première chose. Deuxième chose, c'est que le fédéral ne se gêne pas du tout pour jouer aux pompiers constamment maintenant dans les plates-bandes des provinces. C'est-à-dire que le fédéral se voit comme ça. Il se voit comme un pompier. Il passe en avion, il voit des feux de forêt. Il dit, ah, il y a un feu là, j'arrose, un feu là, j'arrose. Mais si c'est une compétence provinciale, il arrose pareil. Les frais dentaires, les garderies, l'an prochain, les médicaments, le logement, une partie du développement économique, c'est une habitude que le fédéral prend de venir dépenser dans les provinces. Je ne sais pas si ça va rester.
Ben, on peut effectivement reprocher au gouvernement de Justin Trudeau d'être centralisateur, mais en même temps, mon cher Luc, ça fait l'affaire un petit peu des provinces, là. Quand Doug Ford signe une nouvelle entente avec Ottawa sur les frais de garde, puis il se voit promettre 10 milliards de dollars, le Québec, c'est 6 milliards de dollars sur 5 ans. OK, tu peux bien faire ton show, là, ton petit show déchirer ta chemise, là, sur le fait que le fédéral empiète dans les compétences des provinces, mais en même temps, t'as des compensations qui viennent avec, tu comprends? Mm-hmm. Fait qu'il y a un peu une espèce de dynamique de...
Oui, mais quand c'est eux qui ont l'argent, c'est clair, c'est eux qui ont l'argent.
Oui, oui, oui. Puis en passant, le fédéral qui investit dans le logement, là, c'est pas nouveau, là. C'est presque une tradition à Ottawa d'accompagner les provinces en matière de logement abordable.
Oui, il y a toujours eu un budget, oui. Mais là, on y va avec des mesures qui sont presque municipales dans certains cas. Quand on dit qu'on va interdire les flips, on va interdire les investissements étrangers.
Mais bravo! Oui, si le provincial le fait pas,
D'accord, mais je fais juste dire que c'est la tendance qui se dessine. Là. Mais le logement, j'aimerais ça revenir aussi sur le logement. 100 000 logements, bon, d'expérience.
C'est pas assez.
C'est 10 ans. Il en manque 3,5 millions.
Oui, mais je te dirais que ça fait 40 000 la porte.
Oui, c'est rien.
Il y a quelqu'un d'autre qui va prendre l'autre 40 000.
Le relais, ben oui.
Ouais, c'est ça, 40 000 la porte, effectivement. C'est juste la porte que tu achètes à ce prix-là aujourd'hui. mais regarde, il manque 3,5 millions de logements. On dit qu'on va en ajouter 100 000. Mais aussi, on dit qu'on va recevoir, dorénavant, en 2024, 424 000 nouveaux immigrants par année. 424 000 nouveaux immigrants par année, ça fait 4 250 000 sur 10 ans. Fait que tu as un besoin de 4 millions de nouveaux logements, plus les 3,5 millions qui manquent, tu en rajoutes 100 000. Écoute, t'es loin de ton profit en maudit, là.
On s'arrête là-dessus au retour. C'est vendredi, le rapport des commissaires.
La commission Normando-Ferrandaise.
Alors, monsieur le commissaire, on vous écoute pour votre rapport de la semaine.
Bon, ben hier, tout le monde se posait la question de savoir est-ce que M. Guilbeault va garder sa crédibilité après l'annonce du projet B du Nord. Eh bien, aujourd'hui, on a la réponse. Il faut aller lire Hugo Meunier sur Facebook. Hugo Meunier, grand ami de Stephen Guilbeault, qui lui dit, Stephen, qu'est-ce qui t'est arrivé? Là? On était sur le bord du fleuve, on était avec nos enfants, on parlait de l'avenir. Qu'est-ce qui s'est passé entre cet homme-là et l'homme que tu es devenu? Et 1200 partages, 1200 likes. Si vous voulez voir tout... Moi, si j'étais la GRC, je voulais savoir c'est qui le mouvement écologique au Québec, là, j'irais lire ça. Tout le monde a commenté.
C'est fait, quelque chose. C'est t'as pas besoin d'agence de renseignement, facile, ça.
Oui, c'est ça. Fini, terminé. Juste 10 minutes de travail. Et très poétique, comme d'habitude, Hugo Meunier, puis qui dit, un peu comme George Orwell, qui avait inventé la novlangue, tu es là, payé, cravaté, bien mis, à dire le contraire de la vérité, je n'en reviens pas.
Laure Varidel,
qui a fondé Équiterre avec lui, elle aussi, ce matin, dans un article du Devoir... signé Alexandra Shields, qui n'en revient pas. Elle dit, j'ai pas fondé ça avec... C'est pas l'homme que j'ai connu. Je n'en reviens pas. Triste, déçu, fâché. Patrick Bonin, le DG de Greenpeace, le groupe qui a fait connaître Guilbeault, qui n'en revient pas non plus, qui le traite, qui lui dit qu'il comprend même pas les chiffres qu'il évoque. Alors, c'est une grande tristesse du monde écologiste. C'est pas juste une tristesse, c'est un constat d'échec. Puis là, maintenant, hier, j'entendais... j'étais dans une conférence téléphonique avec Harvey Maid, fondateur de Recycle Québec, premier sous-ministre du ministère de l'Environnement. D'ailleurs, c'est un homme malade maintenant, il reste très peu de temps. C'est un homme malade. Et qui disait, il y a eu le rapport Brundtland en 1980, mais après ça, on a fondé le ministère de l'Environnement, après ça, il y a eu Rio, etc. J'ai été dans toutes ces étapes-là. Là, c'est pour moi, c'est le son de la grande madame qui chante. C'est la grosse madame qui chante. Maintenant, le gouverneur du Donbass, M. Gaidai, je ne sais pas si on le prononce comme ça, qui dit à la population... Fuyez. Et à la population de l'Est de l'Ukraine qui dit fuyez. Et je peux pas faire autrement de voir ce que la guerre a fait en 6 semaines. Il y a 6 semaines, les gouverneurs, les leaders, évidemment, en commençant par M. Zelensky, qui disaient battez-vous. Et faites ce que vous pouvez, tu sais, faites des barricades, faites des cocktails Molotov, on va se battre jusqu'au dernier. Et là, 6 semaines après, c'est fuyé. Et entre les deux, il s'est passé quoi? Ben, il s'est passé la guerre sale. Il s'est passé la guerre où t'as pas un ennemi devant toi, là. Il s'est passé la guerre où tu te fais attaquer par les airs de nouvelles bombes, toujours plus puissantes, toujours plus capables de détruire jusque dans les sous-sols. Et je trouve le plus triste dans tout ça, ce sont les gens, justement, qui sont pris dans les sous-sols. Combien d'immeubles se sont effondrés sur des personnes qui, pensant se réfugier à la cave, allaient être sauvées. Et là, on l'a vu avec le théâtre de Mariupol. On ne sait pas combien de centaines de personnes sont mortes sous les décombres, mortes de faim. On est incapable de les libérer. Et ça va être comme ça dans chaque immeuble qu'on va découvrir après la guerre. Alors, M. Gaidai a tellement raison. Fuyez, 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 sortez de là. Seulement 45% de l'achalandage de la STM est revenu en 2021. Cette année encore, le gouvernement a décidé de soutenir les réseaux de transport en commun à travers la province. L'an passé, c'était à coups de centaines de millions. Est-ce que ça va être nécessaire encore pendant plusieurs années? Faut-il réinventer le transport en commun? Comment on va faire? Ça, c'est un enjeu qu'il faut pas mettre sous les draps en disant, ça va s'améliorer tranquillement. 45%, c'est pas assez, là. Dans le mode de fonctionnement des sociétés de transport, le billet payé par l'usager est très important dans le financement. Et s'il n'y a pas d'usager dans les autobus et dans les métros, le financement peut pas fonctionner. Et on doit se poser la question de savoir, est-ce que les transports en commun collectifs lourds qu'on est en train d'installer à coup de milliards de dollars ou planifiés à coup de milliards de dollars, il faut que ça fonctionne. Or, pour que ça fonctionne, il faut qu'ils soient conviviaux, il faut qu'ils remplacent la voiture, il faut que l'achalandage soit rapide, fréquent, et il faut des contraintes à la voiture. Je sais que les gens n'aiment pas entendre ça, mais ça va ensemble. Il faut qu'il y ait de la contrainte, et là, les gens vont le prendre. Alors, il faut prendre acte du fait que le transport collectif, on ne peut pas juste continuer d'investir dedans en se disant « ça va marcher ». Il faut que ça s'arrange pour que ça marche. Dernière chose, j'aimerais revenir sur... le geste de Legault cette semaine. On en a parlé beaucoup, mais moi, ça m'a frappé plus que je ne le pensais. Cette idée de dire, finalement, c'est Bruno Marchand qui va gérer le tramway, on signe les décrets, merci, bonsoir. Écoute, c'est une pièce en 3 actes. Le premier acte, les ténors du parti sortent en masse pour dire, ah non, il y a des conditions, ça se fera pas, etc. Deuxième acte, oh oui, d'accord, Le patron décide qu'il va le tramway, il faut qu'on le fasse. Mais attention, ça prend de l'acceptabilité sociale. Un référendum, par exemple. Troisième acte, non. On signe, il n'y a aucune condition, puis ça passe. Et ça, c'est Legault face à quatre ministres puissants de la région de Québec. Je me rappelle pas d'avoir vu ça. Je me rappelle que René Lévesque avait fait face à tout son caucus à un moment donné sur la question du français, mais d'une capacité comme ça de faire face à son caucus puis à dire non, c'est par là qu'on s'en va, même publiquement, là, alors que les gens se sont avancés publiquement. Moi, je m'en rappelle pas. Est-ce que toi, tu t'en rappelles, Nathalie?
Ben, le premier ministre, c'est le premier ministre. Hein? Quand le premier ministre dit fin de récréation, puis voici ce que ça va être ça, puis ça va être ça. Honnêtement, moi, j'ai déjà vu ça.
Oui, OK. Moi,
je vais pas révéler de grands secrets, mais j'ai déjà vu ça. Là-dessus, d'ailleurs, on est d'accord sur le tramway. Je me disais, rien ne bat un beau sourire, capitaine tramway Bruno Marchand, qui a affiché son sourire Colgate après les annonces du décret. On a un autre point commun cette semaine dans notre rapport, Luc. La suite du dossier maintenant, c'est le coût du tramway. Parce que là, le coût est passé de 3,3 milliards à 3,9 milliards de dollars. D'ailleurs, le Québec souhaite que le fédéral assume une partie du dépassement. Mais est-ce qu'il y aura un autre dépassement? Ça, c'est peut-être le prochain acte dans ce dossier-là.
Et tu as vu qu'il n'y a rien dans le budget fédéral, hein?
Effectivement, il n'y a rien dans le budget fédéral. Ah ben, on pourra en reparler, là, mais le provincial dit que le fédéral se mouille. Le fédéral, j'ai pas reçu de lettre. Le provincial répond, mais il n'y a pas de programme que je t'envoie de lettre. Et là, maintenant, tu dis, regardez les gars, là, arrêtez-moi ça. Là. Citation de la semaine, on va tuer du monde. La déclaration plutôt étonnante de la part du docteur Boileau, qui ne nous a pas habitués à ce genre de sortie. On va tuer du monde si on met abruptement fin à l'état d'urgence sanitaire. Il a prononcé cette phrase en commission parlementaire pour commenter le fameux projet de loi 28, là, du ministre Dubé, les fameux décrets là, qu'on souhaite reconduire. Moi, j'ai eu un malaise, c'est-à-dire un inconfort en écoutant le docteur Boileau, parce qu'il n'était pas, il n'aurait pas dû être de cette commission parlementaire et commenter une décision à caractère politique. Et il a à nouveau projeté l'image d'une santé publique qui est un peu à la remorque des décisions du gouvernement, alors ça ne m'a vraiment pas plu. Vivement une enquête publique, moi qui étais plutôt tiède à cette idée, une enquête publique pour faire la lumière sous tout ce cafouillage qui dure et qui perdure dans le domaine Aaron, mais tous les autres CHSLD. Après les déclarations de les primeurs de Thomas Gerbet de Radio-Canada, Aaron Derfeld de la Gazette, après le livre des trois journalistes de la presse, le rapport de la protectrice du citoyen, celui du commissaire à la santé, l'enquête de la coroner Jeanne Kamel qui va être rendue publique en juin. Il y a encore énormément de questions qui persistent, c'est-à-dire de questions qui demeurent. Et moi, une enquête publique, pourquoi en fait? Pour connaître le qui a fait quoi, à quel moment et pourquoi, et qui était responsable de quoi. Ce matin, on apprend que Marguerite Blais et Daniel Mécan ne se représenteront pas. Oh, surprise! Si c'est ça une stratégie de défense pour le gouvernement, là, honnêtement, c'est très, très faible. Alors, moi, je pense qu'il faut vraiment aller jusqu'au bout de cette histoire-là. Et en terminant, oui, sur une note positive, elle fait l'histoire, vous avez peut-être vu ça, Ketanji Brown Jackson, la première femme noire à devenir juge de la Cour suprême américaine. C'est une première en 233 ans d'histoire pour le plus haut tribunal du pays. C'est le Sénat américain qui a approuvé sa nomination. Il y a eu toutes sortes de symboles dans cette annonce. Il y a Kamala Harris qui a présidé cette séance du Sénat. Première femme noire, faut-il le rappeler, à devenir vice-présidente. Et cette nouvelle juge de la Cour suprême a été interrogée par les sénateurs, tenez-vous bien, pendant près de 25 heures.
C'était épouvantable.
Puis elle s'est débrouillée de façon magistrale, Paul, mais t'as raison. C'était une torture, écoute.
Là, ils ont passé jugement après jugement qu'elle a rendu, notamment sur des cas où des enfants étaient victimes, puis comment ça se fait que la peine n'était pas plus sévère, puis comment ça se fait que vous n'avez pas écouté. C'est toujours un hot seat, là, ces comparutions-là, mais dans son cas à elle, là, c'était dans le très, très agressif.
Puis elle est demeurée calme, posée. Ah non, c'est absolument remarquable.
Merci à tous les deux. Bonne fin de semaine.
C'est 23.